bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Ça manque pas d'air. Nous sommes ensemble pour une demi-heure pour débattre sur la recherche en éducation avec celles et ceux qui la font. Au cours de sa scolarité, un élève doit passer toute une série de paliers, pour ne pas dire d'épreuves, donnant lieu à des bifurcations plus ou moins brusques dans son parcours d'études. On retrouve ces moments clés à chaque changement de cycle. À la fin de l'école primaire, lorsqu'il faut choisir entre le collège et la SECPA, par exemple. À la fin du collège, lorsqu'il s'agit de décider d'aller au lycée général et technologique ou au lycée professionnel ou encore en apprentissage. Puis à la fin de la seconde, où il faut décider du lycée technologique ou de la voie générale. Et évidemment, à la fin des études secondaires, lorsqu'il s'agit d'accéder aux études supérieures. Chacun de ces paliers n'est pas juste un temps où il suffit de choisir en fonction de ses préférences ou de ses appétences pour telle ou telle discipline ou poursuite d'études, comme on le ferait face à un catalogue d'offres de formation. Les décisions prises sont d'abord le fruit d'un long processus qui engage aussi bien l'élève que sa famille, l'équipe enseignante que l'institution, mais aussi en lien avec un contexte qui est propre à chaque territoire et chaque établissement. On le voit, l'orientation correspond à la fois à une succession de temps bien banalisés, avec les conseils de classe en particulier, et à un long cheminement, très personnel pour ne pas dire intime, où la liberté, dans le choix à s'orienter, mise en avant dans les discours institutionnels et politiques, reste donc limitée et contrôlée par celles et ceux qui l'organisent. D'où les tensions, parfois vives, qui peuvent surgir dès lors que les élèves ont l'impression, à tort ou à raison, d'avoir subi leur orientation, de se retrouver dans une filière qui ne correspond ni à leurs souhaits, ni à leurs projets, quand ils en ont un. D'où également un regard critique qu'on peut avoir sur un système éducatif dans lequel l'orientation fonctionne souvent comme un révélateur de toutes les inégalités qui le traversent, le facteur social et territorial pesant plus que d'autres dans les destinées scolaires des élèves. D'où encore les inquiétudes vécues par les élèves et leurs familles dans tout le processus d'orientation de plus en plus gouverné par les plateformes, à l'image d'AffelNet ou de Parcoursup, dont les paramètres finalement échappent grandement aux bénéficiaires mêmes. Voilà autant de points que nous avons décidé d'aborder aujourd'hui dans Ça manque pas d'air avec nos deux invités, à commencer par Esther Gerin, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes ATER au département des sciences de l'éducation et de la formation à l'université Rennes 2 et doctorante au CREAL, le centre de recherche sur l'éducation, les apprentissages et la didactique, avec une thèse qui porte sur la co-construction des aspirations d'orientation vers et dans l'enseignement supérieur. Et nous recevons également Paul Lehner, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes maître de conférence en sciences de l'éducation et de la formation à l'INSPE de Lille, membre du CIREL, le Centre interuniversitaire de recherche en éducation de Lille, et vous êtes l'auteur en 2020, issu de votre thèse, sur les conseillers d'orientation, un métier impossible, aux presses universitaires de France. Et comme chaque mois, on retrouvera une chronique historique proposée aujourd'hui par Apolline Sauvage, doctorante à l'ENS de Lyon.
Ça manque pas d'air, avec Régis Guyon.
C'est avoir des bonnes notes et être dans les, pas être dans les derniers de la classe.
Je pars du principe que si on ne travaille pas, on n'aura jamais vraiment, on n'arrivera jamais au but qu'on veut avoir plus tard, donc les études qu'on souhaite faire.
Ce qui me motive, c'est ce que je fais, parce que j'aime en fait les sciences. Donc j'ai vraiment choisi ce BTS pour aller aussi dans la biologie médicale, parce que c'est ce qui m'intéresse.
J'aime bien me fixer des objectifs, genre je suis un peu compétitrice, mais avec moi-même, genre, j'aime bien me dire que j'ai réussi ça, 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 et du coup j'essaie toujours de donner mon meilleur dans quoi que ce soit.
Réussir, c'est faire ce qu'on aime. Moi j'aimerais bien plutôt travailler, être dans le professionnel, et c'est vrai qu'à l'école, pour l'instant, on fait pas encore ça.
D'avoir une fierté dans son parcours, et de rendre fier ses parents.
Alors, on vient d'entendre des paroles de lycéens qu'on a enregistrées il y a 2 ans à peu près au lycée La Matinière du Cher à Lyon. Et c'était dans le cadre de la préparation de la 7e conférence de consensus du CNESCO qui portait sur l'évaluation des apprentissages. Cette vidéo est aussi disponible sur Internet. Alors, quelles sont vos réactions, Esther Genin, à ce que vous venez d'entendre, où on ne parle pas d'orientation à proprement parler, mais on parle quand même des études et certains de leurs projets et de ce qui va conditionner finalement là où ils souhaiteraient aller.
Alors je ne sais pas si on peut parler jusqu'à des déterminants du choix ou du projet d'orientation, mais en tout cas ce sont les éléments qui mettent et les attentes qu'il y a derrière leur orientation et ce qu'ils attendent de leur poursuite d'études. On a entendu parler, par exemple, de fierté, où on est plus sur un aspect très subjectif, très personnel, et à l'inverse, un aspect beaucoup plus utilitariste avec la professionnalisation et l'envie d'être vers la pratique et d'apprendre un métier. Donc, derrière ces paroles, on perçoit en tout cas voilà, des attentes vis-à-vis de l'orientation qui peuvent effectivement diverger d'un individu à l'autre.
Voilà, donc Paul Henné, on voit bien tous ces paramètres en fait, qui constituent ou qui sont autant d'ingrédients de ce qu'est l'orientation. Est-ce que vous, c'est des choses que vous observez aussi, parce que j'imagine dans vos enquêtes, vous rencontrez aussi ces élèves-là et donc leurs paroles voilà, qui permettent aussi d'avoir une grille d'analyse de ce qui se joue.
Oui, alors sur les travaux que j'ai entrepris là depuis un certain temps, le témoignage des élèves est quelque chose qui vient enrichir un peu l'analyse des mécanismes et des logiques qui sont au cœur de l'orientation. Là, moi, ce que j'ai noté là, dans les témoignages, c'est la question donc, de faire ce qu'on aime, d'être fier. Et il y a aussi, dans le témoignage de l'étudiante en BTS, elle dit que, d'une certaine manière, elle est un peu entrepreneuse d'elle-même. Depuis Parcoursup, il y a donc cette figure de l'élève un peu entrepreneur de lui-même. On lui demande d'avoir des projets, on lui demande de se connaître et on lui demande d'entreprendre voilà, un certain nombre d'actions pour enrichir ce fameux projet. Donc voilà, ce serait peut-être une lecture aussi un peu critique. Hein, c'est-à-dire que l'élève, on lui demande de plus en plus d'être responsable et autonome et de se construire. Et voilà, je trouvais que le témoignage de cette étudiante, en BTS était assez révélateur de cette figure qu'on attend de l'élève, de l'entrepreneur de lui-même.
Et ce qu'on entend peut-être aussi, parce qu'ils en parlent plutôt au début, enfin dans mon souvenir, c'est autour de cette question des déterminants, c'est-à-dire aussi de la question de la note, la question de l'appétence académique pour une discipline plutôt qu'une autre, et finalement les choix qui se guident aussi par je préfère ceci ou faire cela. Est-ce que du coup, c'est pas un objet aussi presque de malentendu par rapport à un choix d'orientation ou ce que l'on fait en classe, finalement, est parfois éloigné de ce qui est attendu là où on voudrait aller, quelque part. Je ne sais pas si je suis très clair dans ce que je dis, mais finalement, à l'université, les élèves ne savent pas forcément ce qu'on va attendre d'eux. Et pour autant, ils demandent vétérinaire, ou ils demandent le droit, ou ils demandent je sais pas, les sciences politiques, sans véritablement en avoir fait. Paul Henné ?
Oui, je voulais rebondir sur votre introduction. Vous parlez d'impression de subir son orientation à travers ces différents paliers. Là, vous insistez, hein, vous pointez cette importance des notes. Et c'est vrai qu'il y a, pour un certain nombre d'élèves que j'ai pu rencontrer, que ce soit au collège ou au lycée, il y a cette sorte de paradoxe entre la liberté de choix et le fait d'être confronté néanmoins à des jugements professoraux et à l'existence d'une structure objective avec une hiérarchie des filières et l'importance des notes et aussi, depuis peu, des compétences psychosociales ou des compétences, tout simplement, la manière dont on exerce son métier d'élève. Et là, l'élève va se confronter à cette réalité complexe, et d'ailleurs, c'est quelque chose qui revient souvent dans le discours et des enseignants, mais aussi des CPE, c'est ce fameux principe de réalité. C'est-à-dire que tu peux faire ce que tu veux faire, à condition que ce soit raisonnable et possible. Donc on demande à l'élève d'être déjà dans une forme d'intériorisation des chances objectives.
Ou d'avoir une distance un peu critique et d'être stratège finalement. C'est-à-dire de dire ça oui, ça non, et de faire sans connaître véritablement les tenants et les aboutissants là où ils vont en fait.
Dans l'orientation, il y a aussi ce principe de toute façon de se représenter un temps à venir qui de fait n'existe pas encore avec tout un ensemble de représentations, que ce soit sur l'enseignement supérieur, sur les enseignements de spécialité au lycée ou autres, qui sont à la fois documentés, informés et qui reposent aussi sur des croyances, parfois des stéréotypes qui sont véhiculés par les acteurs accompagnant les élèves ou que les élèves se construisent eux-mêmes. Et à partir de ces représentations-là et par rapport à leur propre vécu également, ils développent un sentiment de capacité à réussir et à se lancer potentiellement dans cette poursuite de scolarité ou d'études. Mais il y a effectivement cette idée des notes et de ce sentiment d'avoir le droit et de pouvoir ensuite y arriver, quoi.
Est-ce que, en quelques mots, alors c'est peut-être un exercice, même si là on a fait un peu le tour de paramètres importants qui dessinent un petit peu l'orientation, comment aujourd'hui, dans le système éducatif en France, comment on pourrait définir la place qu'occupe l'orientation dans le système? On a l'impression qu'on s'en préoccupe à la fin quand il s'agit de choisir, et en même temps, c'est ce que j'ai essayé de dire en introduction, en même temps c'est le fruit d'une sédimentation de plein de choses qui se cumulent au fil des années. Alors, on n'est pas sur l'orientation en fin de maternelle, mais mais finalement, tout se construit et socialement, territorialement, au fur et à mesure. Donc, comment on pourrait positionner cette histoire de l'orientation dans le système et par rapport à des parcours d'élèves, et on verra pour les métiers plus tard, mais par rapport à ces parcours-là, Esther Genin?
Derrière l'orientation, en tout cas depuis que le système d'orientation scolaire en tant que tel a justement été scolarisé, a intégré le système scolaire, il y a deux logiques qui sont a priori paradoxales derrière ce processus d'orientation. Il y a à la fois la volonté de démocratiser et donc d'ouvrir des places et de permettre à des jeunes d'obtenir ces places. Et de plus en plus, avec les différentes vagues de massification qu'a rencontré le système scolaire, il y a aussi cette idée clairement de réguler les flux entrants. Donc une espèce de double injonction plutôt paradoxale entre ouverture d'un côté et régulation, voire rationalisation.
Qui veut dire tri aussi, enfin, ou sélection.
Exactement.
Pour compléter ce que vient de dire ma collègue, si on revient historiquement en fait, sur cette affaire, l'orientation était d'une certaine manière un nouveau mode de sélection. Il y avait une présélection qui reposait sur les origines sociales et on se dit, autour des années 20...
Puisque avant, les élèves n'entraient pas dans le lycée ou n'allaient pas dans ces études
secondaires
supérieures.
Il y avait deux ordres. Il y avait l'ordre primaire, l'ordre secondaire, mais il y avait une offre de scolarisation post-élémentaire primaire dans laquelle les enfants du peuple pouvaient continuer leur scolarité dans ce qu'on appelait les écoles primaires supérieures, les cours complémentaires, notamment. Mais dans cette affaire, il y a effectivement cette idée d'élargissement de l'accès à l'enseignement secondaire après la Première Guerre mondiale, grosso modo, où l'idée, c'est effectivement de réunir tous les enfants la nation, sur les mêmes bancs. Mais évidemment, ce mode de sélection va susciter un certain nombre de résistances, à la fois parce qu'on se dit que les résultats scolaires ne sont pas suffisants pour pouvoir évaluer les dites aptitudes à partir desquelles on pourrait organiser cette sélection en cours de scolarité. Donc il y a un certain nombre d'enjeux, et c'est pour répondre à votre question, c'est que c'est un système de répartition des élèves au sein d'un système scolaire. Et l'objectif, ça va être à la fois d'élargir l'accès à l'enseignement secondaire, mais aussi de les répartir selon un certain nombre d'objectifs. Et c'est là où il y a paradoxe. Alors, je dirais, il y a un paradoxe avec cette idée de démocratisation, d'élargissement d'accès, mais il y a aussi cette finalité d'essayer de faire en sorte que les sorties scolaires correspondent aux besoins de l'économie. Et là, il y a ce paradoxe. C'est-à-dire qu'il y a une logique fonctionnaliste de l'orientation. Et ensuite, vous parliez d'empilement, il y a une logique libérale. À la fin des années 60, on a mai 68, et pour répondre à ce problème, il y a un rapport extrêmement intéressant qui date de 66 du Sénat, où clairement, il est établi qu'on ne peut pas confier la responsabilité de l'orientation à l'État, parce que les résultats scolaires, les jugements professoraux, on sait qu'ils divergent d'un enseignant à un autre. On ne rejette pas complètement l'ordre scolaire non plus. On ne peut pas non plus confier l'orientation au conseiller d'orientation dans la mesure où, pour les rapporteurs, et d'après leurs différentes enquêtes, la question de l'inné et de l'acquis n'est pas complètement tranchée. Et les aptitudes, ça reste une notion un peu flottante. Donc on ne peut pas non plus confier cette affaire aux psychologues. Mais on ne rejette pas pour autant ces notions de caractère et ces notions d'hérédité. Donc, puisqu'il y a une sorte d'incertitude sur les critères sur lesquels on va pouvoir s'appuyer pour orienter les élèves, alors on va parler de liberté des familles. Finalement, le dernier mot viendra aux parents et aux élèves. Mais ça ne veut pas dire qu'on...
Et toujours assez actuel.
Oui, mais on ne renonce pas aux deux autres, à ces deux autres critères. Ce n'est pas pour autant qu'on balaye d'un revers de la main en disant, mais finalement, on va repenser les fondements de l'ordre scolaire. On garde ces fondements tout en lui adjoignant cette idée de liberté des familles. Donc vous voyez que c'est assez complexe. Le système fonctionnaliste n'est pas remplacé par un système libéral. On ajoute à un système fonctionnaliste une dimension libérale.
Alors je propose qu'on fasse justement une pause historique et qu'on écoute la chronique d'Apolline qui va revenir sur un certain nombre de choses que vous avez soulevées en y mettant tout le contexte depuis les années, on va dire le début du XXe siècle jusqu'à aujourd'hui.
L'évolution de notre appréhension de l'orientation scolaire et des métiers d'orientant est dépendante de l'indéniable massification scolaire, réalisée par vagues depuis la fin du XIXe siècle, de l'unification du système éducatif et de l'émergence de la psychologie comme discipline scientifique. Revenons sur l'évolution de la profession d'orientant et sur l'histoire de la notion d'orientation. L'instauration de l'école gratuite et obligatoire dès 1881-1882 a, tout d'abord, marqué un tournant dans l'éducation en France. Cependant, cette avancée n'a pas permis de contrecarrer le poids de la reproduction sociale et la promesse de la démocratisation scolaire ne s'est pas réellement réalisée. Schématiquement, nous pourrions dire que seuls les élèves issus de catégories sociales supérieures, à quelques exceptions près, réalisaient des études longues, tandis que les autres s'arrêtaient très tôt, dès la fin de l'obligation de scolarité. Peu de questions semblaient se poser alors sur l'accompagnement des élèves pour leur permettre de trouver un emploi correspondant à leurs compétences attestées scolairement et à leurs appétences personnelles. Pourtant, dès le début du XXe siècle, la question de l'insertion et de la formation de la jeunesse populaire émerge. Plus précisément, la fin de la Première Guerre mondiale permet la création de premières structures d'orientation professionnelle, du fait d'une forte demande de main-d'œuvre. Le décret du 26 septembre 1922 établit les offices d'orientation professionnelle, marquant la naissance officielle de la profession de conseiller d'orientation. Les décisions d'insertion professionnelle, très liées à celles de la formation scolaire, ne semblent alors pas appartenir aux élèves, pas plus qu'aux enseignants, mais à des professionnels. La période est également marquée par le développement de la psychologie scientifique et par les travaux d'Henri Wallon qui font de l'orientation scolaire le moyen de mettre chaque travailleur au poste le mieux adapté à ses compétences. En 1928, c'est l'INOP, l'Institut National d'Orientation Professionnelle, qui est créé pour former des conseillers, initialement pour une durée d'un an, puis de deux ans. Le référentiel du métier de conseiller est progressivement explicité et ces professionnels semblent faire face à un double impératif. Répondre à la massification progressive du système éducatif et proposer des approches pédagogiques nouvelles. En 1938, la mise en place des centres obligatoires d'orientation augmente le nombre de conseillers et instaure leur légitimité dans l'espace scolaire et dans la gestion des flux d'élèves qui traversent le système d'éducation français. À dominante psychologique, leur formation reste pluridisciplinaire.
Quels sont les bouleversements qui s'opèrent à l'issue de la Seconde Guerre mondiale ?
Alors, après la Seconde Guerre mondiale, l'orientation scolaire ne se limite plus, dans son appréhension politique, au seul choix d'un métier. Le personnel d'éducation doit également chercher à guider les élèves dans leurs études secondaires et professionnelles, toutes deux devenues plus accessibles. Pourtant, au lendemain de la guerre, en 1951, on ne dénombre encore que 600 psychologues, et parmi eux, il y a 400 conseillers d'orientation. Ils ne deviennent fonctionnaires qu'à partir de 1956. Leur travail consistait alors à travailler sur l'évaluation des aptitudes des élèves et à accompagner les jeunes dans leur insertion sociale. L'allongement de la scolarité jusqu'à 16 ans, en 1959, ainsi que le baby-boom, ont encore accentué la nécessité d'une telle démarche, réalisée principalement par le biais de tests de compétences. Les conseillers ont alors un rôle important, celui de traiter et d'analyser les résultats à ces tests d'évaluation standardisés, menés à grande échelle. Dans les années 1970, la création de l'ONICEP, Office national d'information sur les enseignements et les professions, renforce le rôle des conseillers d'orientation, qui ont alors une sorte de monopole de l'information des études et des opportunités de formation. Pourtant, le socle théorique sur lequel repose leur pratique paraît branlant. S'il est d'abord fondé sur la psychologie expérimentale, c'est ensuite la psychologie clinique et relationnelle qui prend le pas, avant d'être remplacée par la psychologie dite cognitive. Cette instabilité théorique rejaillit progressivement sur la légitimité de ces professionnels à intervenir auprès des élèves.
Alors, professionnels de l'orientation, psychologues, qu'en est-il des métiers de l'orientation ?
Au fil des décennies, le rôle des conseillers d'orientation a évolué de manière significative, même si leur légitimité semble avoir été à plusieurs reprises contestée. Du fait de la diversification des filières, marquée par la création du baccalauréat technologique en 1968 et professionnel en 1985, c'est 80% de l'activité de ces professionnels de l'orientation qui se déroule dans le secondaire dès les années 70, contre 5% 20 ans plus tôt. Leurs méthodes de travail ont aussi fortement évolué. En effet, à partir des années 1990, l'orientation scolaire se personnalise avec des entretiens individuels remplaçant les tests standardisés. Cette approche vise à mieux répondre aux aspirations individuelles et aux compétences des élèves, tout en les informant sur la diversité des formations. L'orientation semble maintenant définie comme un processus continu, nécessitant des ajustements pour suivre les élèves tout au long de leur parcours éducatif. Aujourd'hui encore, face aux effectifs qu'ils ont à gérer, il semble difficile de faire tenir ensemble la nécessité de l'individualisation des parcours et celle de l'accompagnement systématique de tous. La diminution du recrutement de conseillers d'orientation dans le secteur public justifie de même l'émergence d'une offre privée d'orientation, voire de coaching, et la fragilisation de leur légitimité au sein de l'institution scolaire. La création du corps des psychologues de l'éducation nationale, dit PSI-EN, en 2017, semble être la dernière évolution du métier d'orientant. La dimension orientation n'a pas disparu des missions des PSI-EN, mais elle semble toutefois évacuée au profit d'autres missions d'éducation, notamment centrées sur la santé mentale des élèves. Les enseignants, eux, semblent prendre dans ce domaine de plus en plus de place, sans pourtant y être véritablement formés.
Alors, on a parcouru le XXe siècle et au-delà, on est jusqu'à aujourd'hui, donc on a fait tout un parcours historique grâce à Pauline Sauvage. Quelle lecture, Paul Lénaire, vous pouvez faire de ce parcours historique, sans revenir sur tous les éléments, mais peut-être un ou deux qui vous semblent, sur lesquels il vous paraît important de revenir?
Oui, je voudrais juste revenir sur un point. Dans la chronique, l'orientation est présentée comme un moyen, une politique, qui est censée répondre à cette question de la massification. Je voudrais juste apporter une petite précision. L'orientation des psychologues expérimentaux comme Henri Pierron, et effectivement, il va y avoir Henri Vallon, mais Henri Pierron, Édouard Toulouse et d'autres, font partie de ceux qui réclament en fait une orientation en cours de scolarité. Donc l'orientation n'est pas un moyen de répondre à cette question, n'est pas simplement un moyen de répondre à cet enjeu de massification scolaire, mais c'est en fait va faire partie de ce mouvement réformateur en faveur de l'élargissement du recrutement de l'enseignement secondaire. C'est-à-dire que ça va être en partie une justification scientifique de il faut, au nom de la répartition juste et équitable des élèves et des futurs travailleurs dans la société, mettre en place une orientation juste, de sorte à ce que la répartition qui sera ensuite faite dans les métiers soit la plus compatible, la plus optimale possible, à la fois pour la société, mais aussi pour les travailleurs. Parce que le mouvement d'orientation professionnelle, qui consistait à dire que finalement, on va mettre la bonne personne au bon endroit, en fonction de ses aptitudes, pour diminuer les accidents du travail, pour essayer de faire en sorte qu'il soit le plus épanoui et productif, il manquait un bout. Il fallait qu'aussi, au niveau de l'école, on puisse organiser une orientation rationnelle. Ça n'est que, donc c'est après la Seconde Guerre mondiale que on voit que l'orientation dans sa dimension scientifique est remplacée par l'orientation telle qu'elle existait au début du siècle, à savoir être l'orientation comme placement, comme insertion professionnelle. Donc on met de côté ces enjeux un peu hétérodoxes de redéfinition des critères des fondements de la sélection pour finalement faire de l'orientation un moyen d'atteindre un certain nombre d'objectifs économique.
Mais on voit bien que finalement l'école, alors je vous lance là-dessus Serge Henin, mais peut-être qu'il y a d'autres éléments sur lesquels vous souhaitez revenir, mais on a l'impression que dans cette histoire, il y a effectivement les élèves et leur formation et le monde économique, mais en fait l'école au milieu, soit elle n'est pas vraiment concernée, soit elle change pas, elle n'est pas impactée finalement par ces bouleversements, et le lycée reste le lycée, on crée le lycée technique, enfin les filières techniques, puis les filières professionnelles, et finalement, comme... alors je reprends souvent cette expression de Guy Brussy qui parlait du canal et de la digue, c'est-à-dire qu'on crée des digues pour éviter, et on crée des canaux pour dérivatifs finalement, pour orienter des élèves vers d'autres filières sans toucher au cœur de ce qu'on pourrait appeler la méritocratie à la française ou le lycée général pour l'appeler autrement. Est-ce que ça correspond aussi à votre lecture de cette histoire à grands traits?
Il y a un double enjeu en fait économique, c'est que l'économie fait à la fois émerger ces politiques de différenciation, de filiarisation, pardon.
Mais encore une fois, ces filiarisations concernent plus le monde du lycée professionnel ou du lycée technologique, enfin, des filières technologiques et moins le général.
Exactement, mais il y a aussi, du monde économique et de cette diversification de l'économie, il y a également tout un changement du mode de vie, etc., et duquel émergent aussi des aspirations de poursuite de scolarité qui augmentent et qui se diffusent progressivement toutes les classes sociales. Et donc, en fait, avec cette politique de filiarisation, certes, elle touche les plans technologiques, professionnels, etc., mais ça répond aussi en partie aux aspirations d'une partie des jeunes et de leur famille. Peut-être pas jusqu'au bout, mais il y a cette correspondance-là, effectivement. Et après, alors, je dérive peut-être sur un sujet qu'on abordera ensuite, avec un risque quand même d'enfermement, notamment selon...
Ou d'hiérarchisation des filières.
D'hiérarchisation des filières, tout à fait, qui est de fait.
Et donc, dans cette chronique, si on veut revenir dessus, est-ce qu'il y a un élément par rapport à ces politiques ou non politiques? Je ne sais pas comment on peut appeler ça. Est-ce qu'il y a une vraie politique d'orientation en France? Est-ce qu'il y en a eu une? Est-ce qu'elle évolue? Comment on peut situer l'orientation au regard de l'histoire qu'on a parcourue avec la chronique d'Apolline Sauvage?
Il y a l'orientation, alors Paul Lénaire en a parlé tout à l'heure, mais il y a vraiment ce changement de paradigme aussi avec la loi de 89, avec cette responsabilité renvoyée à l'élève.
Donc la loi d'orientation sous Lionel Jospin.
C'est ça. Donc la responsabilité renvoyée à l'élève et à sa famille, et donc une orientation qui devient de plus en plus individualisée et avec cette lourde responsabilisation pour les élèves, et toujours plus une injonction au projet et non pas seulement au projet, mais au bon projet qui correspond à la fois aux notes, aux attentes, aux envies, voire à l'économie si possible. Donc il y a ce prisme-là aussi derrière l'évolution de l'orientation au niveau scolaire.
Paul Lénaire. Oui, pour compléter aussi là-dessus, dans la chronique, c'est vrai que donc Pauline Sauvage a retracé donc une histoire en très peu de temps. Et ce qu'elle a pointé comme enjeu assez important, c'est donc celui de l'accompagnement. Celui de l'accompagnement parce que précisément, le projet, la responsabilité de l'élève est au cœur des politiques éducatives en matière d'orientation à partir donc de la fin des années 80, effectivement. Et ce que Pauline Sauvage a bien rappelé, c'est qu'on a toujours moins de conseillers d'orientation, donc PSIEN, mention éducation, développement, orientation, donc EDO. Et donc, nécessairement, on va reporter cette affaire d'accompagnement à l'orientation sur les enseignants. Et les enseignants, peut-être un sujet qu'on abordera plus en détail ensuite, mais c'est vrai qu'ils n'ont pas forcément revendiqué ce mandat. Ce n'est pas quelque chose qu'ils ont revendiqué au sens où ils ont dit, avec leurs syndicats et leurs associations, nous souhaitons être davantage des accompagnateurs de ce projet d'orientation. Non, ils ont hérité de ce mandat qu'on avait auparavant essayé de donner, d'une certaine manière, aux conseillers d'orientation. Donc, il y a une forme de paradoxe assez fort, parce qu'il y a une extension du mandat des professeurs principaux sans qu'ils l'aient nécessairement demandé. Donc, ça a créé une sorte de malaise, parce qu'ils n'y sont pas formés, il n'y a pas forcément plus de moyens, et les PSIEN et EDO sont pas en nombre suffisant. Donc ça crée une demande assez forte, et cette demande, on va y répondre par ces associations, ces start-up et ces coachs privés.
Mais finalement, est-ce que la circulaire de 2017, dont Pauline Sauvage parlait aussi, n'a pas finalement un peu clarifié les choses en enlevant des mots, en mettant psychologue de l'éducation nationale et en enlevant orientation? Et finalement, de s'occuper plus des élèves avec des fragilités, en situation de décrochage, avec des problèmes de santé mentale, etc., etc., plutôt que prendre en charge la question de l'information et de l'orientation. Est-ce que finalement, ce texte-là ne prenait pas comme acte le fait que ce n'était pas leur travail, en fait, de faire ce travail d'orientation, et qu'ils sont plutôt là pour faire un suivi psychologique, ou en tout cas d'être en appui psychologique à des situations d'élèves en difficulté psychologiquement.
Alors, il faut rappeler que le statut donc, de 2017 de psychologue de l'éducation nationale, éducation, développement, orientation, était aussi une revendication de longue date de la part des conseillers d'orientation. Au début des années 60, les conseillers d'orientation défendait le projet de statut de conseiller psychologue. Ensuite, ça a été, depuis les années 70, une bataille, un combat assez acharné pour bien insister sur l'expertise de psychologue, de conseiller d'orientation. Parce qu'il ne fallait pas, pour eux, réduire le conseiller d'orientation à une simple diffusion d'informations. L'orientation, la prise en compte du jeune, de ses aspirations, de la projection de son avenir, etc., fait partie intégrante de la psychologie. Donc, c'est pour ça qu'on parle un peu de victoire à la Pyrrhus, c'est-à-dire que ce statut de PSIEN et EDO leur permet justement d'établir et de revendiquer, de protéger, de préserver cette formation de psychologue et de dire l'orientation est une dimension à part entière de la psychologie.
Mais pas que.
Et en même temps, mais en même temps, on voit le risque effectivement poindre de confier au psychologue EDO seulement les jeunes, les EBEP, les élèves à besoins éducatifs particuliers à PSIEN et EDO, et donc de faire de l'orientation ensuite un mandat pour les PP, mais qui n'y sont pas formés. Et donc, tout se passe comme si, finalement, l'orientation, ça n'était qu'une sorte d'élimination ou de jugement sur la base de résultats scolaires, sans forcément connaître le jeune.
Est-ce que, finalement, Esther Jeun, on n'a pas l'impression que, finalement, c'est l'affaire de tout le monde, l'orientation, et en même temps, on est plutôt à se dire, c'est pas mon problème. Je parle des adultes, hein, je parle pas des élèves ou de leur famille, hein, mais c'est d'abord le souci des jeunes. Mais est-ce que, finalement, on se renvoie pas la balle? Et je ne parle pas du chef d'établissement, de tous ces personnels-là, alors que tout le monde a un rôle à jouer, mais finalement, la responsabilité, elle est diffuse.
Alors, je pense que Paul Lénaire en parlera mieux, mais il n'y a pas vraiment de responsabilité, effectivement, il n'y a pas d'expert, il n'y a pas de cadre non plus. En France, on n'a pas d'éducation à l'orientation, enfin, il n'y a pas un enseignement quoi, à proprement parler. Et parallèlement, bah, ça fait aussi un foisonnement de possibilités pour les élèves. Alors, je vais plutôt me positionner sur ça, parce que c'est ce que je connais le plus hein, à travers les témoignages d'élèves. C'est vrai qu'il y a des masses d'informations depuis Internet jusqu'au discours des acteurs professionnels, les pères, les parents, etc., dans lesquels finalement ils se retrouvent à la fois très informés, mais à la fois submergés.
Oui, noyés.
Et noyés. Alors, en plus, la capacité à maîtriser cette information, à s'en saisir et à se l'approprier pour sa propre représentation du temps à venir, là, elle est socialement marquée et bien souvent délicate à effectuer. Donc, pas vraiment de responsabilité, en même temps, un foisonnement qui submerge.
Pauline. Oui, je voudrais juste apporter un complément. À la fois, j'entends tout à fait ce que dit Esther, et en même temps, on peut relever que depuis 2018, le PP a de plus en plus une responsabilité de plus en plus grande, au sens où il est jugé parti. C'est celui qui doit accompagner le jeune dans le développement de ses connaissances et compétences sur le monde du travail, sur lui, sur les filières, etc., de sorte à ce qu'il puisse construire ensuite un projet d'orientation ou se faire une idée lui-même. Et en même temps, c'est celui quand même qui, au moment du conseil de classe, va devoir acter et prendre une décision avec ses collègues. Donc, il est un peu jugé parti. Et dans les enquêtes qu'on a menées, la plupart du temps, les PP nous disent que c'est à eux qu'on va demander des comptes si, par exemple, il y a une procédure d'appel. S'il y a une procédure d'appel qui est engagée par la famille, parce que l'orientation ne leur convient pas, c'est au PP qu'on va dire « Mais alors, est-ce que vous vous êtes retrouvé devant un ordinateur? Mais qu'est-ce que vous avez fait des heures dédiées, etc. ?» Alors, juste pour une petite information, les heures qui sont censées être données pour faire de l'éducation à l'orientation ou l'accompagnement à l'orientation, je le rappelle, 12 heures en quatrième, 36 heures en troisième, 56 heures au lycée, 256 dans les voies pro et générales sur 3 ans, ce sont des heures données à titre indicatif. C'est-à-dire qu'elles ne font pas partie de la dotation horaire globale. Elles ne sont pas sanctuarisées, ça dépend des établissements. Il y a certains établissements qui arrivent à sanctuariser des heures, d'autres non. Donc les enseignants font aussi, d'une certaine manière, ce qu'ils peuvent. Mais ça reste au PP qu'on pourra demander des comptes si effectivement le vœu de l'élève ne convient pas aux aspirations de l'élève et à sa famille.
Alors il y a deux expressions qui circulent beaucoup ces dernières années, qui est l'orientation choisie et qui est le choix éclairé. Ça, c'est des choses qui circulent beaucoup. Quand on a organisé les entretiens Ferdinand Buisson l'année dernière, et l'ouvrage devrait sortir incessamment, Sophie Orange avait pointé le fait que, justement, et ce que vous disiez tout à l'heure, Esther Genin, sur cette masse d'informations qui sont publiées, qui sont censées aider les élèves à s'orienter, mais cette profusion d'indicateurs va en réalité les perdre. Et cette notion de choix éclairé fonctionne, et c'est son expression, comme un concept écran qui rendrait aveugle, finalement, parce que c'est difficile, finalement, de hiérarchiser, de faire un tri, etc. Alors, comment vous voyez, ce qui est peut-être un langage institutionnel, hein, d'ailleurs, ce choix éclairé, qu'est-ce que ça peut recouvrir au mieux pour vous, et quelles sont les limites que ça peut représenter quand on est du côté de l'élève qui a à se retrouver dans ce maquis, finalement, d'informations?
Alors, moi, d'après les travaux que j'ai pu mener, l'idée de choix éclairé, effectivement, c'est plutôt de l'ordre du langage institutionnel. Et à mon sens, c'est le résultat le plus souhaité du processus d'orientation, mais qui oblitère, de fait, cette idée de processus continu tout au long de la scolarité, voire tout au long de la vie. Ouais, enfin, ce choix éclairé se bloque sur cette maîtrise aussi du temps à venir, de développer les bonnes stratégies pour obtenir, pour savoir ce que l'on veut faire et puis savoir comment mettre en œuvre toute la procédure pour atteindre cet objectif.
Alors, sur choix éclairé, orientation choisie, c'est une catégorie d'action publique. C'est-à-dire que depuis les années 60, les conseillers d'orientation ont été séparés, effectivement, entre il y avait le SNED d'un côté et le SGEN, puis ensuite ça a été le SNES et le SGEN. Mais notamment Geneviève Latreille et d'autres, Hélène Angeville, avaient développé toute une vision de l'orientation comme éducation des choix. Il y a même eu une méthode ensuite, éducation des choix, qui a été développée ici, à Lyon, par l'association Trouver Créer.
Et puis il y a ce que les Québécois ont développé,
la DVP,
l'approche orientante.
Absolument. Et l'activation du développement vocationnel personnel qui a ensuite donné lieu à une forme d'école orientante. Mais tout ça pour dire que l'idée de l'orientation choisie, c'était essayer d'engager l'élève dans une démarche de développement de connaissances et de compétences sur un certain nombre de domaines, le travail, l'économie, les filières, les formations, pour qu'il puisse prendre des décisions. Alors, ça a été catégorie d'action publique, d'une certaine manière, après, au début des années 2000, pour essayer d'impulser un certain nombre de... Justement, on parlait de politique d'orientation, pour impulser une politique d'orientation de sorte à ce qu'on fournisse à tous les élèves une information objective et en masse pour qu'ils puissent se repérer. Et c'est là où il y a une certaine forme de politique d'orientation qui a consisté simplement à dire on va essayer de donner à tout le monde un accompagnement minimal. On ne va pas être dans un accompagnement spécifique, donc un registre de justice, on va plutôt être dans une dimension libérale qui consiste à donner la même information à tout le monde, et pas, pas selon une logique de justice qui consisterait à essayer d'accompagner le plus spécifiquement possible les élèves selon leurs besoins. Donc elle est là, la politique d'orientation. Et ça fait un peu écran dans la mesure où on ne peut pas réduire une politique d'orientation simplement à une politique d'information, parce qu'il y a la question de la réception, il y a la question de l'usage qu'on va faire de l'information, et l'information ne suffit pas en elle-même pour développer et des connaissances, et ensuite des compétences.
C'est pour ça que c'est une vraie formation, en fait. C'est pas juste de l'information, c'est une vraie formation, finalement, qu'il faudrait mettre en avant. Je voudrais juste qu'on conclue, puisqu'on arrive au terme de cet échange, par rapport à ce qu'on a évoqué un petit peu au départ et qu'on n'a pas trop souligné, même si, par rapport à la chronique, on y est revenu. France Stratégie a sorti un rapport il y a une année à peu près sur la force du destin, poids des héritages et parcours scolaires, où il était écrit « De la petite enfance à la sortie du système éducatif », avec ou sans diplôme, l'origine sociale, le genre et l'ascendance migratoire des élèves exercent sur leur performance et leur parcours une influence majeure, ajoutant « c'est l'origine sociale qui, en France, pèse le plus sur les trajectoires ». Est-ce que, du coup, et alors je suis désolé de conclure, parce que je pense que ce serait une ouverture vers des échanges, mais est-ce que finalement, à travers tout ce qu'on vient de se dire, il n'y a pas la question sociale qui se joue tout le temps, à chaque bifurcation, à chaque choix ? Et que finalement, face à l'information, tout le monde n'est pas formé ou en capacité de s'approprier de la même manière en fonction des origines ou des territoires ou de parcours personnels qu'on peut avoir. Et Serge Genin, par rapport à ces inégalités face à l'orientation, quelles sont votre lecture et puis par rapport à votre thèse aussi, parce que je pense que c'est des éléments que vous avez observés.
Oui, alors, l'origine sociale, de fait, elle joue sur la maîtrise de l'information et surtout l'appropriation de l'information pour que cette information permette d'éclairer et de mieux se représenter ce temps à venir. Là, les travaux en sciences d'éducation sont assez nombreux sur les inégalités en termes d'accompagnement par les familles, notamment en termes de connaissance du système scolaire, des stratégies familiales, etc., etc. Et là où ça joue aussi, je reviens sur cette idée, il y a aussi l'idée de ce temps à venir, se le représenter quand on a par exemple des parents qui eux-mêmes ont fait des études supérieures, il y a déjà des éléments qui sont presque incarnés et qui sont dont on peut se saisir plus facilement plutôt que d'être étudiant de première génération, si on vient sur ça, et de manière encore plus générale, la représentation du temps à venir est plus facile quand dans le temps présent on est suffisamment à l'aise.
Oui, alors sur le poids de l'origine sociale, on en revient aux travaux de Bourdieu et Passeron dans les années 60, où on montre que finalement, la sélection repose sur la complicité en fait, d'une culture légitime qui est acquise, d'une certaine manière, et intériorisée par les enfants issus de milieux favorisés, qui a cette forme de complicité culturelle, qui fait qu'il y a une élimination de ceux qui en sont plus ou moins éloignés. On a quand même avancé en matière d'orientation, c'est-à-dire que il y a dans cette idée de parcours l'idée qu'il faut accompagner l'élève et que ce n'est pas lui tout seul qui va réussir à construire son projet d'orientation. Donc on a avancé dans cette idée qu'il faut du temps, on a avancé dans cette idée qu'il fallait qu'il y ait des professeurs principaux qui s'occupent des élèves et qui puissent les rencontrer, faire des entretiens. Évidemment qu'il n'y a ni de temps dédié et sanctuarisé, et les professeurs principaux ne sont pas formés. Donc ça serait une réponse importante à cet enjeu, c'est de les former, donner plus de temps. Autrement, cette question de l'orientation choisie ou de choix éclairé nous renverrait à ce que Jean Guichard avait pointé au début des années 2000, à savoir que finalement, l'orientation, ce serait simplement produire du consentement, l'acceptation à des orientations qui n'auraient pas été nécessairement choisies par l'élève et sa famille. Et ce processus de susciter le consentement des élèves, c'est ce qui pourrait donner lieu, comme vous le disiez en introduction, à cette impression d'avoir subi son orientation.
Bien, merci à tous les deux pour ces échanges. Merci Esther Gerin, merci Paul Lehner. Ça manque pas d'air, une émission de Régis Guyon. Elle a été préparée en collaboration avec Apolline Sauvage, doctorante à l'ENS de Lyon. À la réalisation, Sébastien Boudin. Au mixage, Laurent Gaillard de Réseau Canopé. Rendez-vous en novembre pour une prochaine émission. D'ici là, retrouvez ce podcast et tous les autres de Cas d'école sur le site de l'IFE de l'ENS de Lyon et sur toutes les bonnes plateformes de podcasts.